La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure des voix de l'économie. François-Emmanuel Combes, professeur à Schema Business School, est votre invité.
Bonjour Emmanuel Combes.
Bonjour François.
Également professeur des universités à Paris 1 et vous avez aussi publié tout récemment Le transport aérien aux éditions de La Découverte. Alors une porte de secours qui s'arrache en plein vol, une roue qui se décroche juste après un décollage, un moteur qui prend feu, tout cela 5 ans après les deux crashs mortels sur des 737 Max. Est-ce qu'on peut dire que chez Boeing, les ennuis, pour ne pas dire autre chose, vol en escadrille.
L'image est en effet osée mais pertinente. En fait, ce qu'il faut bien voir dans l'histoire de Boeing, c'est que c'est une conjugaison de facteurs. Il n'y a jamais de cause unique. En fait, il y a des facteurs structurels, des conditions propices, et puis il y a eu des causes conjoncturelles. Quand vous mettez tout ça, vous mélangez tout ça, ça peut malheureusement faire des incidents, voire des accidents très graves, comme vous l'avez relevé. Du côté des facteurs structurels, moi j'en vois au moins deux. Il y en a un premier, et j'ai envie de dire c'est naturel. On peut pas le reprocher à Boeing, on l'a également chez Airbus, qui consiste finalement, vous pouvez pas maîtriser un avion. Faut bien comprendre, c'est un assemblage de composants. Ça peut paraître paradoxal. En réalité, Airbus et Boeing ne fabriquent pas les moteurs, ne fabriquent pas les tentes d'atterrissage, et donc ils ont, si vous voulez, externalisé une grande partie de la production. Ça, c'est normal. Vous n'avez pas toutes les compétences, premièrement, et puis ça permet aussi d'optimiser les coûts de production et de satisfaire notamment aux impératifs des actionnaires. Mais pour le coup, dès lors que vous externalisez, dès lors que vous découpez en morceaux, il y a une tâche qui est critique qui s'appelle l'assemblage. Et l'assemblage, on n'assemble pas des poils, on assemble des avions. Mmh. Et donc, y compris le boulon serré, c'est quelque chose de capital. Donc, vous voyez, il y a peut-être cette réflexion à avoir sur jusqu'où peut-on externaliser et quelle place doit être faite au contrôle absolu de la qualité. Ça, c'est le premier facteur structurel.
Et d'ailleurs, on va aller sur les autres facteurs. Mais d'ailleurs, Boeing a annoncé qu'ils allaient peut-être racheter Spirit, donc qui est l'un des sous-traitants, qui est mis en cause dans l'histoire du boulon mal vissé, de la porte arrachée.
Le paradoxe, François, c'est que Spirit, si je ne dis pas de bêtises, était en réalité une filiale de Boeing en 2005.
Ils ont été filialisés ensuite, puis mis en bourse.
Donc, il ne faut pas faire le procès de l'externalisation. C'est normal d'externaliser dès lors que vous avez de la division du travail. Mais jusqu'où et surtout, comment vous contrôlez? Il y a un deuxième facteur. Vous l'avez soulevé, il y a eu différents incidents récents sur d'autres modèles, mais l'essentiel des problèmes, et notamment des accidents les plus graves, souvenez-vous, Lyon Air et puis Ethiopian, c'est sur le 737. Est-ce que ce n'est pas aussi ce second facteur structurel qui est la fin d'un modèle qui existe depuis 1967. Oui. Ça s'appelle l'innovation incrémentale. C'est-à-dire, c'est un modèle qu'on a à chaque fois remotorisé sans vraiment partir d'une page blanche. Au bout d'un moment, l'innovation incrémentale, il faut aller vers du radical. Et Boeing ne peut plus le faire aujourd'hui, puisque vous le savez, on attend
même
des nouvelles.
Même si le 737 Max n'a rien à voir, y compris dans la conception, dans le câblage, dans l'avionique, dans l'électronique, avec ceux d'il y a 60.
Sans doute, mais quand vous regardez ce qui s'est passé au niveau des moteurs, ça a changé l'aérodynamique de l'avion, et vous le savez, notamment parmi les causes des deux crashs, il y a cette portance de l'avion. Mais je crois que les facteurs structurels n'expliquent pas tout. Il y a un facteur conjoncturel qu'il ne faut pas oublier. On est dans un monde qui peut paraître étonnant de pénurie. Il n'y a pas d'avions. Vous avez d'un côté des clients qui demandent de plus en plus un renouvellement des flottes parce que le trafic aérien se porte plutôt bien. Aujourd'hui, cette année, on sera quasiment revenu au niveau avant Covid. On a des prévisions très optimistes pour l'avenir. Il y a aussi la transition environnementale. Les compagnies veulent renouveler leur flotte. Donc d'un côté, vous avez une pression au niveau de la demande et du côté de l'offre, mais nous ne l'oublions pas, on n'est pas sorti complètement du Covid. Il y a encore des tensions sur les chaînes de production. Il y a des tensions sur la logistique. Vous avez un énorme problème, et on en parle d'ailleurs avec mon co-auteur Paul Chambaretto dans une tribune qu'on publie dans Les Échos dans quelques jours. Il y a un problème de ressources humaines. Ça a laissé des traces, le Covid. Vous avez des personnes qui ont été mises en chômage technique, des personnes qui ont quitté l'entreprise. Et donc, vous avez d'un côté un facteur conjoncturel qui est la pression. Et quand vous mélangez d'un côté des facteurs structurels et un contexte qui fait que vous devez délivrer parce que les compagnies vous le demandent, attention, on n'est pas dans de la mécanique, on parle de conditions propices, mais tout ça peut expliquer notamment ce qui est arrivé à Boeing.
Sachant que la sécurité, c'est un actif, sans doute l'actif le plus précieux quand on vend des avions, c'est la condition sine qua non.
S'il y a une tâche qui n'est pas négociable, c'est bien celle-ci.
Et je reviens à les compagnies, y compris quand on a les consignes de sécurité dans un avion, on ne cesse de nous dire, quelle que soit la compagnie, votre sécurité est notre priorité.
Vous savez, moi qui ai beaucoup travaillé sur le low cost, je dis souvent, on peut penser ce que l'on veut du low cost, mais vous regardez, la seule priorité sur laquelle ils n'ont jamais renié, c'est justement cette question de la sécurité.
Ryanair n'a aucun accident mortel à son actif.
Il n'y a à ce jour, et même chose pour Southwest Airlines, qui est la plus grande compagnie low cost au monde et la plus ancienne, il n'y a jamais eu d'accident fatal. Donc, si vous voulez, cette contrainte de la sécurité, cet impératif, il s'impose de la production jusqu'à la compagnie, c'est-à-dire jusqu'à la main maintenance. Car là aussi, hein, il y aura tout un travail d'expertise pour savoir mais quelle est la part du constructeur et quelle est la part également de la maintenance au niveau des avions. La sécurité, c'est une chaîne qui va de l'amont vers l'aval.
Emmanuel Combes, vous qui êtes un spécialiste de la concurrence, vous avez été longtemps numéro 2 de l'autorité de la concurrence. Est-ce que cette période un peu critique chez Boeing, ça peut profiter d'une part à Airbus? Est-ce qu'il peut se réjouir d'être peut-être un peu le seul chez qui tout va bien? Et puis, un petit constructeur chinois, j'allais dire petit, Comac, qui est en embuscade et qui fait, ça y est, un C-919, son avion qui ressemble furieusement à l'A320 et au Boeing 737.
J'ai envie de dire, la concurrence a déjà fait son œuvre. Hein. Quand vous regardez les carnets de commandes sur le moyen courrier, je dis vraiment sur le moyen courrier, Airbus a aujourd'hui une longueur d'avance sur Boeing. Est-ce qu'elle va vraiment en profiter? Je crois pas. Pourquoi?
Je crois que c'est 8600 avions au carnet de commandes chez Airbus.
Exactement. Et en plus, ce sont sur ces avions-là que la profitabilité est la plus forte. Mais est-ce qu'elle va en profiter? Pas tellement, parce que la contrainte de pénurie s'impose à tous. Ça veut simplement dire qu'elle fera peut-être sans doute moins de réduction catalogue. Donc, on est dans un contexte de pénurie. Donc, est-ce que ça va forcément profiter à court terme? Je ne crois pas. Ça va profiter en termes d'image. Ça c'est sûr à Airbus. Mais pour revenir sur cette idée, est-ce que Comac va en profiter? Moi, je suis assez réservé. Je suis plutôt prudent.
Donc pour l'instant, le C919, qui est cet avion chinois, il vole sur le marché domestique chinois et ça y est, il commence à être mis à l'exportation.
Il est présenté à l'exportation. Mais moi, je crois que ça prendra du temps. D'abord, quand vous êtes une compagnie aérienne, vous n'achetez pas un avion, vous achetez souvent une famille d'avions. Et une des forces d'ailleurs d'Airbus et de Boeing, et surtout d'Airbus, c'est d'avoir toute cette gamme d'appareils moyen courrier. Secondement, les délais de certification hors de Chine vont être très très longs. Il ne vous aura pas échappé qu'en plus, il y a un contexte quand même de guerre commerciale, voire technologique, entre les États-Unis et la Chine. Je vois mal des grandes compagnies américaines décider de passer sur le Comac, le C-919.
C'est tout un marché émergent qui pourrait, non aligné avec les États-Unis, qui pourrait être intéressant.
Non, je vous dis pas qu'il n'y a pas de marché. Hein. Je vous dis simplement l'idée qui est de dire on passe d'un duopole à un tripole. Oui, dans les faits, en pratique, ça concernera pour l'essentiel le marché chinois. Donc attention, il suffit pas d'avoir un nouvel appareil pour autant pour passer à la conquête des marchés. Je voudrais simplement revenir un tout petit peu sur votre question précédente, mais au fond, est-ce qu'il faut s'en réjouir? La réponse est bien évidemment non. Et pourquoi? Parce que si Boeing doit réduire, elle va réduire sa production, ça veut dire que ça va renforcer encore la pénurie.
Et puisque les autorités américaines ont dit à Boeing, pour l'instant, vous calmez votre montée en cadence sur la production tant que vous n'avez pas répondu à toutes nos interrogations.
Exactement, et c'est bien normal. Donc ça veut dire que vous allez avoir des tensions sur la capacité à délivrer des avions, donc les compagnies aériennes vont devoir retarder la mise en service de nouveaux appareils, ce qui aura un impact sur le trafic. Vous avez vu que Ryanair a annoncé qu'elle revoyait à la baisse ses prévisions de trafic par manque de Boeing. Il y aura un impact sur le prix du billet. Et on l'oublie, il y aura aussi un impact sur la transition environnementale. Car n'oublions pas, ces avions de nouvelle génération, ils ont quand même une vertu, entre autres, c'est d'être extrêmement efficace en termes de carburant.
20% de carburant.
À peu près 20%.
Quand on achète un appareil aujourd'hui par rapport à la génération précédente. Et au milieu de tout ça, effectivement, Airbus qui va lui aussi essayer de monter en cadence et sortir 75 avions par mois. D'ici 2026, ça paraît dingue. Ça fait quand même 2,5 avions par jour. Merci beaucoup, Emmanuel Combes. Je rappelle le titre de votre livre, Le transport aérien aux éditions de La Découverte. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, François.
Merci à tous les deux. À demain, François, 6h pour la matinale de l'économie. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. David Doucan nous explique pourquoi la France Insoumise a placé une militante pro-palestinienne sur sa liste aux européennes. Ça fait grincer quelques dents à la France Insoumise, Radio Classique.